Nu lyser ängarna av sommarns alla blommor. Nu surrar bin och fåglar sjunger överallt. Nu stryker vinden genom trädens höga kronor. Men i min trädgård är det visset mörkt och kallt. Här är det snårigt.
Vous allez entendre l'émission Invisible, la seule émission de télévision uniquement diffusée par la radio. Installez-vous devant votre fenêtre, allumez votre poste de télévision et coupez le son. Feuilletez un livre illustré, courez à la première exposition venue de peinture ou de photographie, ou, si vous êtes en voiture ou en train, observez attentivement le paysage. Vous avez les images, nous apportons le son.
Ett liv i synd och utan omsorg att bli frälst. Försonad med min karaktär, för jag har aldrig förmått att säga nej till någonting som helst.
Cette émission est réalisée et présentée par Alain Bourges.
Eller andra och levat livet tills jag krossades en dag.
Pour commencer cette émission, miroir d'astrologie d'après les textes de Max Jacob et Claude Valence, publiés chez Gallimard en 1949. Aujourd'hui, Stella Cadente nous présente les dames du Sagittaire, de ce signe lié à la période comprise entre le 23 novembre et le 22 décembre.
Les dames du Sagittaire, celle-ci du 3e décan qui va du 11 au 21 décembre. La dame du 3e décan est très élégante. Elle est d'une ancienne famille qui aurait droit à la particule. Elle n'y pense pas. Elle a en tête bien d'autres soucis. Ses amours nombreuses, pathétiques, succédant à des périodes de solitude et de chasteté presque mystique. La vie est toujours si monotone. Elle s'efforce de la varier. Elle voyage. La nuit, en wagon, elle voudrait un assassin, une aventure qui l'obligerait à sortir son revolver. Dans les jardins du casino des jeux à X, elle disait à son amant de cette époque « Si les voleurs avaient de l'intuition, dire qu'il n'y en a pas un qui se doute que j'ai 60 000 francs de billets dans ma sacoche et que mon collier de perles vaut 500 billets ». C'est un Anglais qu'elle adorait qui l'a fait entrer dans la police internationale. C'est à peine si elle s'en cache. Elle a l'imprudence des très grandes dames. Le mensonge est une petitesse, excepté quand il s'agit de sauver sa peau. Alors, c'est une arme. Inculpée dans une affaire de vol d'un papier de mobilisation quand elle était la maîtresse du commandant X, elle a joué l'innocente infantine avec tant de naturel que les juges d'instruction les plus raides et les plus malins s'y sont laissés prendre. On a fait des excuses à cette grande mondaine qui a le salon le plus artistique de Paris, a des propriétés à l'étranger, elle a aussi des autos, des châteaux en France et plusieurs millions de dettes partout. Elle a une longue figure d'adolescent, des yeux bleu clair et doux, des mains d'évêque. Elle vit, elle apprécie la vie. Elle est connaisseur en vin, en tabac, en bijoux. Elle aime à entendre discuter des savants. Et pour conserver sa cour dans les villes où elle séjourne, elle fait des dons, des pensions, des aumônes royales. On est ébloui. Personne n'ose se demander d'où vient l'argent. Cette vie splendide a été traversée par un drame terrible. Elle avait 50 ans. On lui en eut donné 30. Un homme n'a pas voulu lui vendre ses lettres. Alors elle a sorti un délicieux revolver d'un délicieux sac et froidement, elle l'a tué. La police est arrivée. C'est moi qui l'ai tué. Mais ne me touchez pas ou je vous tue aussi. J'irai où bon vous semblera. croira-t-on qu'après quelques années de réclusion, quand on l'a rendue au monde, elle a été de nouveau reçue, fêtée, et qu'elle a refusé le mariage que lui offrait un millionnaire américain, du ton le plus naturel, car nul n'est moins comédien que cette femme. Elle fait allusion à ses années de prison. Un jour, dans un château où elle séjournait chez des amis, elle se chargea de ranger la bibliothèque et le fit avec une méthode admirable comme un chartiste professionnel. Comme on la félicitait, elle dit sans sourire « Vous oubliez toujours que j'ai été à la prison de Rennes. J'étais bibliothécaire. » Un jour, un gaffeur engagea à propos d'un assassinat qu'on s'occupait les journaux une conversation sur les crimes passionnels et aveugles de l'amour qui voit rouge. C'était à table, et les convives étaient visiblement gênés. La dame du Sagittaire commença « Quand j'ai tué ce pauvre Adolphe, j'étais absolument de sang-froid. Je l'ai exécuté parce qu'il était un goujat, un être sans grandeur, etc. » Elle vit encore. C'est l'une des plus vieilles joueuses de Monte-Carlo. On dit tout bas qu'elle aide un peu la veine et tout haut qu'elle a encore de très beaux amants. Elle tient maintenant à sa particule.
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nichts. Männer umschwirren mich wie Motten und das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nichts. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nichts.
What's the name of this place?
You're new here, aren't you?
Where?
Do you want breakfast?
Where is this?
The village.
Yes.
I'll see if coffee's ready.
Where's the police station?
There isn't one.
Can I use your phone?
Oh, we haven't got one.
Where can I make a call?
Well, there's a phone box around the corner.
Thank you.
Les amateurs auront reconnu dans ce bref extrait sonore le générique d'un feuilleton qui marqua l'histoire de la télévision, Le Prisonnier. Ce feuilleton britannique, écrit par Patrick McGoon et George Markstein et diffusé en 1968, décrivait les aventures d'un espion, tout juste démissionnaire, qui se faisait enlever et se retrouvait prisonnier d'un mystérieux village dont les dirigeants s'obstinaient à vouloir lui faire avouer le motif de sa démission. leur nationalité, l'organisation dont ils dépendaient, leurs objectifs, tout cela reste indéchiffrable pour leurs prisonniers. Le génie de ce feuilleton tient dans le choix de son cadre, Porte-Mérion, un véritable village construit par un architecte riche et excentrique au nord du pays de Galles. Le prisonnier en fait une sorte de village de vacances-prison, un lieu à la fois séduisant et parfaitement artificiel, et dont surtout on ne s'évade jamais. D'une certaine façon, ce village préfigurait un certain urbanisme contemporain. Grand amateur de ce feuilleton, l'artiste auquel ce cabinet de curiosité est consacré est lui aussi l'auteur d'un village. Il s'appelle Thierry Ved et est actuellement professeur à l'école d'art de Caen. Il a effectué des études d'art au milieu des années 80 et c'est à cette époque qu'il a fondé avec deux amis les éditions Cactus, devenues aujourd'hui la manufacture des cactés. Dans ce cadre, ils ont édité de nombreux ouvrages, livres, disques, CD-ROM, gravzines, œuvres en ligne, objets divers, représentant une bonne centaine de titres et plus de 200 auteurs. Parallèlement, il a développé une œuvre artistique touchant l'écriture poétique, à la performance musicale et à l'installation. Le 27 novembre 2002, il est devenu ambassadeur de France des royaumes d'Helgaland-Vergaland, royaume des Entre-deux, créé par les deux artistes suédois Carl Michael von Hauswolf et Leif Elgren. Enfin, en 2018, Thierry Ved a inauguré une collection de petits livres de textes et images à tendance poétique, intitulée « Un village, sites et monuments, us et coutumes », inspiré par sa vie dans un lotissement au milieu d'un village depuis une dizaine d'années. On ne peut rester insensible à l'étrangeté des brefs récits de Thierry Ved, produits par la propulsion, si j'ose dire, de la banalité des situations par la mécanique de l'écriture. Nous diffusons maintenant un travail sonore effectué par Thierry Ved avec un groupe d'étudiants suédois au sujet du village. Précision, le fragment entièrement prononcé en suédois signifie « Tout le monde connaît tout le monde, tout le monde ne connaît personne, mais tout le monde ne connaît pas le singe, tout le monde connaît tout le monde, mais personne ne me connaît. »
Dans le village, il y a la ruine antique.
La ruine antique?
La mer miniature.
Miniature?
Les jardins publics.
Les jardins publics?
Les toilettes publiques.
Les toilettes publiques?
Les banques publiques.
Publiques?
L'église de la reconstruction.
Reconstruction?
La reconstruction. Les monuments à mort.
Oh, à mort.
Et les habitants?
Les habitants.
Bienvenue au village.
Les habitants habitent le village. Les habitants dorment au village. Les habitants se réunissent au village. Les habitants barbecuent au village. Les habitants votent au village. Les habitants tondent leur pelouse au village. Les habitants rendent au village. Les habitants taillent leur haie au village. Les habitants cachérisent au village. Les habitants lavent leur sombre berline au village. Les habitants participent à la fête des voisins au village. Les habitants meurent au village. Les habitants vont travailler en dehors du village. Les habitants font leurs courses en dehors du village. Les habitants rencontrent leurs amis en dehors du village. Les habitants se promènent dans le village. Les habitants se promènent avec leurs amis dans le village. Les habitants se promènent en famille dans le village. Les enfants des habitants jouent dans le village. Un habitant promène son chien dans le village. Les habitants habitant le village. Le village vit. Le village est calme et la rumeur est sourde. C'est un joli village habité.
C'est un joli village.
Comment vous vous appelez et quel âge avez-vous?
Alors, je m'appelle Gustave et j'ai 14 ans.
Est-ce que vous pouvez me raconter quelque chose de votre voisin? Par exemple, moi, je ne les connais pas. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Oui.
Bah, par exemple, il y avait une voisine qui faisait des oreillettes pour tout le village, en fait. Et pour nous aussi, du coup, on la remerciait, on offrait des œufs parfois, tout ça.
Est-ce que vous pouvez les entendre parfois?
On entend surtout notre voisine d'en face, parce qu'elle fait que éternuer, son chien il fait que tousser, tout ça. Et parfois il aboie pour qu'il vienne. C'était un chien, en fait il y avait des personnes qui s'occupaient du chien. Et comme il était abandonné, du coup il se sent un peu seul le chien, et il fait que aboyer. Qu'on s'occupe de lui, et c'est un peu seul, je pense.
Quel personnage existe dans la quartière?
Alors, il y a Philippe, c'est notre voisin dans la rue, en fait. Mais on le voit plus trop en ce moment, puisqu'il y a le confinement. Et non, il est très sympa avec nous, il nous offre plein de cadeaux, tout ça, et c'est réciproque.
Merci.
Pour terminer ce cabinet de curiosité, je voudrais vous lire un texte de Thierry Ved. Un village, la mélancolie du jardinier systématique, hors série numéro 1. Le texte s'intitule « Ce que je vois ».
De ma fenêtre, je vois le ciel. De ma fenêtre, je ne vois rien d'autre que des nuages qui glissent sur le fond bleu du ciel. Par ma fenêtre, j'entends et j'imagine. J'entends la radio au loin. Et j'imagine le voisin dans sa chambre qui tourne en rond comme un toton. J'entends les aboiements des chiens. Et leurs échos.
J'entends le concert des télévisions à l'entour. J'imagine la femme du voisin d'en face, celui qui habite à côté, dans sa chambre, en train de composer ses textes érotiques invisibles. J'entends au loin les sirènes des ambulances. J'entends le clapotis de l'eau. J'imagine la rivière scintillante. J'entends le vent qui anime le feuillage des arbres.
À la lisière du bois asymétrique. J'entends sonner le carillon de l'église de la reconstruction. Je sens l'odeur des grillades barbecuées.
J'entends chaque jour le concert des tondeuses. J'entends parfois le son panaché du karcher. J'entends aussi la chef du lotissement qui cause et qui rit bruyamment. J'entends les enfants qui jouent dans les jardins. Pendant ce temps-là,
j'imagine l'odeur vanillée du tabac à pipe en suspension.
Je perçois dans les nuages en mouvement la rumeur sourde et diffuse de ce joli village.
Le jardinier systématique. Mardi, 16h. Il sort sa tondeuse autotractée de l'abri de jardin. À 16h02, il remplit le réservoir avec le jerrycan d'essence rangé derrière l'abri. À 16h05, Après avoir remis le jerrycan à sa place, il peut enfin tirer sur le démarreur de sa tondeuse autotractée et déclencher le grondement remarquable de son moteur. C'est parti pour la tonte des 800 m² du jardin. À 16h15, premier arrêt pour vider la réserve d'herbes tondues. Il la vide dans un sac en papier qu'il déposera plus tard au fond du jardin, derrière l'abri, pas loin du jerrycan d'essence. 16h20, c'est reparti. 16h30, second arrêt. 16h35, c'est reparti. 16h45, troisième arrêt. 16h50, c'est reparti. 17h, quatrième arrêt. 17h05, c'est reparti. 17h15, cinquième arrêt. 17h20, c'est reparti. 17h30, sixième arrêt. 17h35, c'est reparti. 17h45, septième arrêt. 17h50, c'est reparti. 18h, huitième arrêt. 18h05, c'est reparti. 18h15, neuvième arrêt et fin de la tonte. Il vide le dernier sac d'herbe, il gratte les amalgames végétaux à différents endroits de la machine encore chaude et il la rentre dans son abri coloré. À 18h30, le terrain est fin prêt à être rond de pisé tout autour. Car, après la tonte, le jardinier s'occupe des mauvaises herbes alentour à coups d'herbicides systémiques. C'est le jardinier systématique.
Ramasser nos verres, nos corps sont vraiment morts de fatigue, lors de la lumière.
Quel temps va-t-il faire aujourd'hui? Quel amour vas-tu t'habiller? Les arbres sont encore pleins d'endroits.
C'est maintenant l'heure de retrouver Marc Mercier et le bulletin d'écoute d'Armand Robin.
Восемь, восемь, три, девять, шесть, восемь, 28 29 mai 1958, bulletin numéro 31. Radio britannique et situation française. Nous avons procédé à une écoute systématique du meilleur service de la BBC, l'European Service, étroitement rattaché d'autre part au Foreign Office. La BBC est, de toutes les radios mondiales, celle qui se consacre le plus aux nouvelles de France. Les trois quarts de ses bulletins, bientôt, on dirait que ces événements concernent directement l'Angleterre. Principaux points de vue à dégager. Petit A. Les informations sont exposées objectivement, dépouillées de l'aspect sensationnel. La BBC en anglais, d'ailleurs, déclare refuser de tenir compte des rumeurs qui circulent, même si ces rumeurs semblent confirmées par les blancs de la censure dans les journaux. B. Il est assez difficile, donc, de discerner quelle peut bien être l'attitude réelle de ces radios. Jamais nous n'avons vu la radio britannique en tel état de prudence. Mais si la prudence est extrême, le flair politique anglais est lui aussi extrême. C'est ce flair, de toute évidence, est consacré à essayer de poser en termes exacts le rapport des forces en présence et les problèmes du changement de régime en France. En ce qui concerne le rapport de force, l'auditeur de la BBC en anglais ne peut avoir aucun doute, Alger et De Gaulle sont considérés comme gagnants. À remarquer, la dépêche du correspondant de la BBC diffusée dans les dernières heures. Le principal obstacle à la formation d'un gouvernement De Gaulle est que, selon la Constitution, il lui faut une majorité parlementaire. Or, il ne la possède pas. Comme d'autre part, la BBC dit que le retour de De Gaulle est inévitable, l'auditeur britannique peut comprendre. Le discours de l'amiral Obuano à Oran, aux élèves officiers, est cité par ses émissions de la BBC. D. Mais c'est au-delà que veut aller ce que nous venons de nommer le flair politique britannique. Soit par ses propres commentaires, soit par d'abondantes citations de presse. La BBC, en anglais, pose le problème. La démocratie est-elle viable en France? Y a-t-il possibilité de système parlementaire en France? Etc, etc, etc. Mais ici, malgré l'estime que je puis avoir pour la subtilité et la discrétion des commentaires entendus, il m'a constamment paru que les Anglais faisait une erreur à la base, l'erreur de parler du système parlementaire français de ces dernières années comme s'il avait quelque chose de commun avec le système anglais. En tout cas, De Gaulle n'effraie pas du tout les Anglais.
Prêt pour l'échauffement ? Jambes tendues, pieds parallèles légèrement écartés, dos droit, fesses serrées, tête de droite à gauche. Lentement d'abord. Droite, gauche, droite, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
pouvez maintenant fermer les volets, éteindre votre télévision, ranger votre livre illustré, car l'émission invisible s'achève.
En bas, en arrière, en bas, en arrière. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 1. 2, 3, 4 et 1. 2, 3, 4.
Aujourd'hui, vous avez entendu par ordre d'apparition Monica Zetterlund, Stella Cadente, accompagnée par Maurice Ravel, Marlène Dietrich, Ron Greiner, Thierry Ved, les élèves de l'école de Mocoton, Il était une fois, Liv Bourges, Marc Mercier et en ce moment même Mick Chic Wawa Box.
Rapide. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Cela a été un vrai bonheur de vous avoir avec nous et nous vous donnons rendez-vous au mois prochain.
Rotation de l'épaule d'avant en arrière. Épaule droite. En avant. En haut, en arrière, en bas, en avant, en haut, en arrière, en bas, en avant, en haut, en arrière, en bas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Épaule gauche. En avant, en haut. En arrière, en bas, en avant, en haut, en arrière, en bas, en avant, en haut, en arrière, en bas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'entends du bras ouvert, serrer les omoplates, ouvrir et serrer. Le bassin, pieds parallèles, jambes légèrement pliées, bras ouverts, basculer le bassin en avant et en arrière. Avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Rapide maintenant.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rapide maintenant. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En avant, à gauche, en arrière, à droite, en avant, à gauche, en arrière, à droite. 1, 2, 3.